Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous commençons une toute nouvelle série très intéressante qui sera intitulée « Que savons-nous concernant Jésus-Christ ?» Que savons-nous concernant Jésus-Christ ? Il est vrai que souvent, les gens ont une toute fausse opinion, malheureusement. Et la plupart même des chrétiens ne savent pas exactement ce qu'il en est de Jésus-Christ. Je voudrais d'abord vous demander de noter quelques références bibliques, car tout ce que nous faisons, c'est 100% biblique, uniquement. Et vous pouvez contrôler sur le site internet www.bibleexplique.ch. Alors, s'il vous plaît, notez tout d'abord les références suivantes. Saint Jean, chapitre 1, verset 1. Deuxièmement, Saint Jean, chapitre 17, verset 5. Troisièmement, Hébreux, chapitre 1, verset 2 et 3. Quatrièmement, Colossiens, chapitre 1, verset 16. Cinquièmement, 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 6. Sixièmement, Philippiens, chapitre 2, verset 6 à 8. Septièmement, Saint Jean, chapitre 17, verset 5, que nous avons déjà dit au numéro 2. Huitièmement, Saint Matthieu, chapitre 20, verset 25. Neuvièmement, Saint Luc, chapitre 24, verset 7. Et dixièmement, Hébreux, chapitre 2, verset 9. Vous constaterez, chères sœurs et chers frères, que nous nous basons uniquement sur la parole de Dieu et rien d'autre. Soit que vous admettez que la Sainte Bible, c'est la vérité, et non pas quelque religion, quelle qu'elle soit, que ça soit n'importe quelle religion, Mohammed, Bouddha, Confucius, et j'en passe. Nous commençons. Chers amis, il y a beaucoup de fausses conceptions quant à ce qu'est réellement la vie chrétienne. Nous ne nous arrêterons cependant pas sur ce côté négatif, c'est-à-dire sur ce qui serait soit une erreur, soit une confusion, soit une compréhension inadéquate. La meilleure manière de vaincre des difficultés de ce genre, c'est de prendre la ligne positive et de chercher à présenter la vérité dans sa plénitude et dans la mesure où nous le pourrons, et ainsi de laisser à ceux qui voudront vérifier dans leur Sainte Bible, le soin de faire les comparaisons eux-mêmes. C'est important, croyez-moi, c'est important. Alors, maintenant, la vie chrétienne ni le christianisme n'ont commencé avec le Jésus historique. Oh non! Ils n'ont pas commencé au moment où Jésus est né, ou au moment où Jésus a vécu ici-bas, ni au moment où Jésus est mort et ressuscité. C'est précisément là, et je le répète, que nous avons besoin de faire un ajustement. Il nous faut connaître ce que la Bible nous dit de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, la Sainte Bible nous montre Christ dans les temps éternels. Prenons maintenant notre Nouveau Testament et ouvrons-le aux Évangiles. Nous voyons que Saint Jean remonte bien au-delà des 30 ans, bien au-delà de Bethléem jusqu'à Abraham, et même au-delà de Abraham jusqu'à Adam. Mais il ne s'arrête pas à Adam. Voyez-vous, figurez-vous qu'il remonte encore beaucoup plus loin, tout en arrière. Il est dit au commencement, quand et où se trouvait ce temps sans date. Au commencement, il est écrit, était la Sainte Parole. Et la Parole était avec Dieu. Et la Parole était Dieu, selon Saint Jean chapitre 1, verset 1. C'est une déclaration, et c'est une déclaration de vérité quant à la personne du Seigneur Jésus, et cela avec une ou deux autres phrases qui disent « c'est ce que l'apôtre Jean nous donne ». Une grande partie de la biographie de Jésus-Christ dans la parole de Dieu nous parle de ce qui est appelé « avant les temps éternels ». Avant les temps éternels. Prenons quelques fragments des Saintes Écritures. Nous l'entendons prier et il prie, oui, il prie Dieu le Père, son Père. Et il dit dans Saint Jean chapitre 17, verset 5, il dit « Glorifie-moi, Père ». Glorifie-moi toi-même, oui, avant que le monde fût. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde a existé ou qu'il ait donné en existence. Avant, bien avant. Il est dit dans Hébreux, chapitre 1, verset 2 et 3, « Dieu nous a parlé en son Fils qui étant le rayonnement de sa gloire, l'empreinte même de sa personne. Cela n'appartient certainement pas au jour de son humiliation. Cela remonte tout en arrière. Ensuite, quant à sa destinée, ici nous avons le contexte des paroles que nous venons de citer. Dieu nous a parlé en son Fils, en celui qu'il a établi héritier de toutes choses, de toutes choses. Et quand cela fut décidé, oui, quand cela a été décidé, ce ne fut pas fait dans le temps, cela n'arriva pas au moment de sa naissance, ni de la suite, mais ça le remonte tout en arrière. Oui, figurez-vous, tout en arrière, là, dans l'éternité passée, dans l'éternité passé. Or, c'est de cette relation avec Dieu et de cette communion avec Dieu, le Père, et de cette destinée établie par Dieu qui procéda le mouvement suivant, la création du monde présent. Donc, la création du monde présent, non pas la création de l'état du monde présent, mais de l'ordre cosmique actuel. Je répète, de l'ordre cosmique actuel. Il est dit dans Colossiens chapitre 1, verset 16, « C'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les autorités, soit les puissances, tout a été créé par lui et pour lui. Et si nous avons encore besoin d'un autre mot pour prouver tout cela, eh bien le voici dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6. Là il est dit, nous avons un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses. Et c'est lui qui a été l'agent de la création. De la création. Voyez-vous, ce n'est pas à 92 ans que je vais avoir très bientôt que je vais commencer à vous raconter des mensonges. Surtout pas. Ça serait trop dangereux pour moi. Ce ne sont donc là que de simples gages d'un grand fait. Jésus-Christ est la raison même de la création, car sans lui, la création n'a plus aucun sens. Sans lui, la création n'a plus aucun sens. Et comment ? Chers amis, évidemment, nous avons l'image de l'homme qui dit pouvoir se passer de Dieu. Aujourd'hui, la plupart, si ce n'est pas plus de 95% des humains, pensent qu'ils peuvent se passer de Dieu. L'homme cherche à se réaliser lui-même. Il cherche à se satisfaire lui-même et attirer tout à soi-même. Il cherche à être en lui-même le centre de tout, non seulement individuellement, mais collectivement. C'est le cours des choses, c'est l'histoire. Et les résultats? Eh bien, regardons un peu le monde d'aujourd'hui. Toute la souffrance terrible, toute la misère et toute l'horreur. Vous pouvez ouvrir le journal et presque en chaque page, surtout le journal qui est gratuit à Genève, qu'on peut trouvé dans toutes les boîtes en ville, le 20h, eh bien, chaque page, il y a des crimes, chaque page, il y a des suicides, il y a des horreurs. Nous n'aurions jamais imaginé, si ce n'était devenu une actualité dans ces dernières années, ce que l'homme est capable de faire, et tout cela à cause de quoi? À cause de sa rupture avec Dieu. On a rejeté, on a fait fi, on s'est moqué de Dieu en criant haut et fort « Gott ist gestorben »« Dieu est mort ». Mais supposons maintenant que nous entrions dans la vie chrétienne, cela n'enlèvera pas toute la misère et toute la souffrance qui sont dans la création, et cela ne nous enlèvera pas la souffrance à nous-mêmes, même il y aura une différence. Ça c'est certain. Il y aura donc, dans tout ce que je viens de citer, une différence. Et la différence énorme qu'il y a entre celui qui est en dehors de Christ et celui qui est en Christ, elle est celle-ci. Écoutez bien. Tous les deux, sans Christ ou avec Christ, tous les deux souffrent. Mais tandis que l'un souffre jusqu'au désespoir et au découragement complet, il y a dans les souffrances de l'autre, il y a la grâce de Dieu qui se sert de toutes ces expériences. Pourquoi ? Pour que les chrétiens reviennent à l'image de Dieu. Les autres souffrances sans espoir meurent également sans espoir. Mais les souffrances d'un chrétien ont pour but de le rendre semblable à qui, à quoi, mais de le rendre semblable à son Sauveur et Seigneur. C'est une chose merveilleuse que de voir l'image de Christ paraître dans les siens à travers leurs souffrances. Et nous arrivons maintenant à la phase suivante, qui est l'incarnation. L'incarnation de notre Seigneur Jésus. Jésus étant né à Bethléem, cela nous dit beaucoup, beaucoup plus de choses au sujet de sa venue. Ce n'était pas le commencement de Jésus, mais c'était la venue. Je répète, ce n'était pas le commencement de Jésus. Non, non, vous l'avez entendu tout à l'heure, mais c'était sa venue, la venue de Jésus. Jésus étant dans cette forme parfaite de son existence éternelle avec Dieu le Père, avait pris une décision à ce sujet. Il avait pris la décision délibérée de venir. Le fait qu'il est venu sous la forme d'un petit enfant a donc sa propre signification particulière. Nous ne pouvons pas nous arrêter à tous les détails de cela, mais c'était une venue. Et voyez-vous, la Sainte Parole nous dit, avant tout au sujet de cette venue, c'est qu'elle était de la part de Jésus un immense renoncement. Écoutons encore Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 8, vous constaterez que je prends uniquement des citations bibliques que vous pouvez vérifier dans toutes les versions des Bibles qui existent. Il est dit « Lui, qui étant en forme de Dieu, n'a pas voulu se prévaloir de son égalité avec Dieu le Père, mais il s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'un serviteur et devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est donc abaissé lui-même pour se rendre obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. » Et il y a une claire implication dans cette phrase de sa grande prière, cette prière qu'il a dit et que vous pouvez vérifier dans Saint Jean chapitre 17, verset 5. Il a dit « Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi » Avant que le monde fût, bien avant, il a quitté ce monde-là, il a quitté cette gloire et il l'a laissé. C'était là le renoncement immense du Fils de Dieu. Il a renoncé à sa gloire céleste, à sa gloire éternelle, à sa position d'égalité avec Dieu pour descendre à quoi? Pour descendre à la servitude. Le mot est être serviteur. C'est de là que vient le mot être serviteur. Et des serviteurs tels que Sabina Reichenbach et des milliers d'autres, eh bien, vous pouvez leur demander. Ils sont au courant 100% de ces choses et ils les prêchent. Oui, ils les prêchent sincèrement, parfois même au risque de se faire renvoyer. Oh oui, dans les temps que nous courons à la fin de cette époque, à la fin de cette dispensation de la grâce, où nous arrivons dans les temps de jugement, eh bien, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu et de servantes de Dieu qui risquent leur place s'ils disent la vérité. C'est affreux. Ils n'ont plus le droit de dire les choses qui se trouvent. Pourtant, depuis des centaines d'années, dans le Livre Saint, voyez-vous, Jésus-Christ n'est pas venu comme un maître, mais il est venu comme un esclave. Oui, le Fils de l'homme, il a dit lui-même, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. C'est écrit dans Saint Matthieu, chapitre 20, verset 28. Ce fut comme homme qu'il a pris pour l'homme que nous sommes, il a pris la responsabilité de cet état de choses et la responsabilité de recouvrer ce qui avait été perdu et de réinstaller ce qui avait été détruit, c'est-à-dire la responsabilité de la rédemption de l'homme. Je répète, de réinstaller ce qui avait été détruit, c'est-à-dire la responsabilité de la rédemption de l'homme. Oui, Jésus-Christ s'est incarné pour aller ensuite tout droit à la croix. Il n'avait pas d'illusion à cet égard-là. Et c'est pour cela qu'il était venu. L'un de ses grands impératifs était toujours relié à la croix. Il est dit dans Saint Luc, chapitre 24, verset 7, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré et qu'il soit crucifié. » Voyez-vous, à 82 ans, vous n'avez plus tout à fait les yeux pour voir comme à l'âge de 20 ans. Oh là là! Mais l'Esprit Saint peut remplacer les yeux. Oui, c'est la vérité. L'Esprit Saint. Parce que à 92 ans, on ne voit plus du tout comme quand on avait été beaucoup plus jeune. On n'entend plus la même chose, on n'a plus la même résistance, et même on peut avoir de l'Alzheimer et presque tout oublier. Mais par le Saint-Esprit, il est possible de ne pas tout oublier. Et j'espère que vous le constaterez tout à l'heure, mais déjà maintenant. Cet impératif était donc dans son cœur à Jésus, et il gouvernait et dépassait toutes les autres choses. Il le savait, Et c'est pourquoi il répudia et rejeta l'offre des royaumes. Vous savez, il y a un malin qui lui a offert ou voulu offrir tous les royaumes de ce monde qui lui faisait à bon marché, le diable, parce qu'il était venu non pour les avoir tels qu'ils étaient, mais pour les avoir comme Dieu, le Père, les avoir toujours voulu, et cela ne pouvait être que par le chemin de la croix. Oui, par le chemin de la croix. Jésus était donc là comme le représentant de l'homme, le représentant du monde tel qu'il était, et il devait mourir comme tel. Jésus a goûté la mort pour tous, pour nous tous, selon Hébreux chapitre 2, verset 9. Et cela signifiait expérimenter l'abandon de Dieu le Père, la répudiation et la porte du ciel fermée, c'est-à-dire le niet, le non éternel de Dieu le Père, sur cette création déchue. Et c'est par ce moyen-là, qu'il a racheté l'homme et qu'il a racheté la création et que dans sa résurrection et dans son ascension, dans la résurrection donc, et son ascension à la droite de Dieu, le Père, eh bien, il a, Jésus, réinstallé l'homme. Et j'ajoute la femme, vous l'avez compris, quand la Bible dit l'homme, automatiquement la femme est comprise, qu'il n'y ait pas de mésentente pour les féministes. La femme, de manière représentative, à la place que Dieu avait toujours voulu pour la femme, mais aussi pour l'homme. Il est donc celui qui représente tous les hommes, Jésus. Et ce qui lui est arrivé à lui, c'est ce qui est dans l'intention de Dieu le Père pour tous les hommes. Avant que l'homme soit en Christ, il est répudié par Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin. Personne ne vient au Père que par moi, nous est-il dit dans Saint Jean, chapitre 14, verset 6. Je répète, personne ne vient au Père, c'est pas par Bouddha, c'est pas par Mahomet, personne ne vient au Père que par moi, c'est-à-dire par Jésus-Christ. Nous est-il dit dans Saint Jean chapitre 14, verset 6. Tout cela est donc le cadre de la vie chrétienne. C'est là l'arrière-plan du chrétien. N'est-ce pas immense? Nous cherchons des mots pour essayer de le présenter. C'est quelque chose de si grand. Tout ce que je peux espérer, c'est qu'il nous en reste une impression. Je ne peux pas l'expliquer, pas du tout. Je ne peux pas le définir non plus. Mais je ne peux pas non plus le présenter. Je ne peux même pas le faire comprendre correctement. Mais tout ceci, bien que si pauvre en expression, devrait sûrement faire une impression sur chacun de nous. Il nous faudrait donc au moins saisir ceci, c'est qu'un chrétien est établi sur un arrière-plan éternel. C'est donc une chose merveilleuse que de se convertir, être né de nouveau, ça s'appelle comme ça, se convertir, et de devenir un chrétien. C'est donc une bénédiction que d'être sauvé. Mais notre conception et notre expérience de la vie chrétienne, elles sont si petites. Si nous les comparons à la pensée de Dieu, nous avons besoin de saisir les dimensions éternelles de la signification de Jésus-Christ pour voir la base d'une vie chrétienne. Le christianisme ne commence donc pas au moment où nous acceptons Christ. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous sommes ramenés là, dans l'éternité, de la pensée de Dieu le Père pour l'homme. Nous entrons dans quelque chose qui a été de toute éternité dans l'intention de Dieu et qui est lié à une réalisation inexprimablement merveilleuse dans les âges à venir. Devenir un enfant de Dieu, naître de nouveau, de quelle manière que nous définissions cette expérience, c'est entrer directement dans quelque chose qui, avant tout, n'appartient pas au temps, mais qui est de l'éternité. Ce n'est pas simplement cette petite vie ici-bas sur la terre. Elle est universelle dans sa signification. C'est une chose merveilleuse, oui. C'est une chose qui dépasse tout pouvoir de compréhension que d'être un véritable chrétien. Si nous pouvions seulement avoir une conception du prix de notre salut, du prix de la rédemption, du prix qui a dû être payé pour recouvrer l'héritage perdu, le prix qu'il signifia pour Dieu, le prix pour le Fils de Dieu, les profondeurs terribles de cette croix, eh bien, chers amis, si nous pouvions en avoir seulement une idée, eh bien nous verrions que ce n'est pas une petite chose que d'être un chrétien, mais c'est quelque chose d'immense. Ceci dit, ce n'est pas en dehors de la Sainte Parole de Dieu. Nous sommes restés, je crois, strictement en ligne avec la Sainte Bible. Nous n'avons pas passé de passage en passage, mais il y a, dans ce que nous venons de dire, une vaste part des Saintes Écritures. Tout ce que nous avons vu, et bien plus que cela, tout cela se trouve dans la Sainte Parole de Dieu. Et la chose importante, c'est que tout ce que nous avons vu peut être mis à l'épreuve. Oh oui, cela peut être vrai, vrai dans notre expérience, et cela dès maintenant, dans cette vie même. C'est précisément le côté merveilleux de tout cela. Un enfant de Dieu, réellement né d'en haut, il le sait dans son être intérieur. Il sait que cela est vrai. Et c'est pourquoi j'ai une existence. J'en ai maintenant trouvé l'explication et beaucoup plus encore. Maintenant, si cela est vraiment vrai, si tout cela signifie être chrétien, être en Christ, et nous mettons ceci par voie d'argument, quel appel immense à être un chrétien et quelle chose terrible ce serait de ne pas être en Jésus-Christ. Quelle chose immense, par contre, ce sera, non seulement dans cette vie, mais bien plus, infiniment plus, c'est-à-dire dans les âges à venir, que d'être en Christ. Si quelqu'un de ceux qui ont entendu ces paroles n'était pas encore en Christ, pas encore sauvé, ceci est pour vous un appel. Il ne s'agit donc pas simplement pour vous avoir quelques convictions ou de la foi de votre père, et je plaisante parfois, et de votre grand-mère. Il ne s'agit pas de quelque chose que vous appelez christianisme, la cathédrale, la synagogue, ni de votre propre conception d'un chrétien, qui peut être entièrement fausse et erronée, ou du moins inadéquate. Il s'agit donc d'une chose vaste, d'une chose immense. Que Dieu vous aide, chers amis, par cette contemplation de la portée de la vie chrétienne, à chercher, si vous ne l'avez pas encore fait, à embrasser, à accepter le don de Dieu. Et pour nous qui savons ce que c'est que d'être en Christ, soyons certains de tendre vers tout ce que signifie la vie chrétienne, de ne pas nous contenter simplement d'une petite vie chrétienne, de quelque chose de moindre que toute la plénitude de Dieu pour nous. Et si nous avons déjà beaucoup d'expérience et de connaissances, que tout ce que nous avons entendu nous amène à une détermination nouvelle de ne perdre rien de ce qui était l'intention pleine et suprême de Dieu lorsque il nous a saisis en son Fils bien-aimé. Amen. Et demain, nous continuerons le CD numéro 2 et qui sera intitulé « Ce qui arrive lorsque nous devenons chrétiens ». Alors, à demain, chers auditeurs et chères auditrices, je me réjouis d'être avec vous, si Dieu le veut, demain matin à nouveau. Et souvenez-vous que Dieu vous aime. Il vous aime d'un amour extraordinaire. Et il est donc de mon devoir de vous aimer également, de tout mon cœur. Et là où vous vous trouvez, tout près ou très loin, eh bien, je vous embrasse tendrement, je vous enlace. Et je répète, je vous embrasse tous et je vous dis, soyez bénis en et par Jésus-Christ. Amen. Amen.